passons donc de l'Inquisition à une période beaucoup plus contemporaine et à des discussions tout à fait plurielles sur le poids de la magie dans certains actes, contribution qui nous est donc proposée par le professeur René Provost de l'Université de McGill, qui travaille donc au Centre des droits de la personne et du pluralisme juridique et qui nous propose une contribution sur la justice ensorcelée, magicien et cannibale au tribunal spécial pour le Sierra Leone avec une critique tintinologique. Je vous cède la parole.
Merci beaucoup et donc tout d'abord merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir visiter l'ULB et vous entretenir de ma recherche. Comme disait Olivier Corten tout à l'heure, il disait peut-être qu'on va, dans les minutes qui suivent, retourner à des choses plus connues, plus fondamentales et plus classiques. Donc, j'ai pensé donner une couleur locale à ma présentation. Venant au pays de Tintin, je me suis dit qu'une critique... Moi, j'ai toujours dit tintinologique, mais peut-être que c'est une prononciation nord-américaine déformée de la justice pénale internationale. Considérant la façon dont peuvent se conjuguer la place de la magie dans le tout premier album commercialisé de Tintin, après Tintin et les Soviets, Tintin au Congo, et une décision récente du tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l'affaire des CDF, Civil Defense Force. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une rencontre. D'abord, pour Tintin au Congo, une rencontre d'un jeune blanc et de l'Afrique noire, telle qu'imaginée par un auteur belge vivant à Bruxelles dans l'entre-deux-guerres. Et il s'agit évidemment d'une projection de la réalité africaine par un auteur européen. Et on a beaucoup discouru sur Tintin au Congo comme une apologie du colonialisme. Je ne vais pas vraiment revenir à cet égard-là. Je vais plutôt m'arrêter à la place de la magie dans cet épisode des aventures de Tintin. Donc, je vais tester ce... Oui, pour avancer, on va essayer de voir si ça fonctionne. Excellent. Donc, la rencontre de modernité et mysticisme, je souligne tout de suite que je suis retourné à l'édition originale de Tintin au Congo, datant de 1930, publiée dans le petit 20e. À côté de cette rencontre imaginée par Hergé, est une rencontre plus contemporaine au tribunal spécial pour la Sierra Leone, rencontre de la justice pénale internationale et de la réalité d'un conflit sanglant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Les jugements du tribunal spécial pour la Sierra Leone sont aussi, on peut le dire, une certaine projection de la réalité de ce conflit et de la réalité africaine. Dans Tintin, tout comme dans la jurisprudence du TSSL, on a une rencontre entre modernité et mysticisme, où le mysticisme joue le rôle de code pour décrypter la société africaine, définir sa modernité, décliner sa vérité. Donc, je vais discuter d'abord de Tintin et ensuite du TSSL pour voir quel lien on peut faire entre les deux. Alors, tout d'abord, Tintin au Congo. Trois manières dont mysticisme et modernité se conjuguent dans Tintin au Congo. La première, la magie comme un faux qui est utilisé comme outil de domination. La seconde, l'appropriation du surnaturel par la modernité. Et la troisième, la modernité qui va consommer le mysticisme. Donc, quelques commentaires sur chacun de ces trois thèmes dans Tintin au Congo. Alors, tout d'abord, la magie comme fausseté, outil de manipulation des crédules. Donc je vais vous rappeler un peu vos lectures d'enfance, vos classiques, si ça fait longtemps que vous n'avez pas relu Tintin au Congo. Donc dans un des épisodes, Tintin arrive dans une tribu qui s'appelle les Baba Orom apparaît comme un personnage qui conteste l'autorité du sorcier de la tribu. Et le sorcier, pour se débarrasser de Tintin, dit aux membres de la tribu que Tintin a planté une hache dans le fétiche de la tribu pour faire en sorte que Tintin soit expulsé de la tribu. Or, Tintin entrevoit une discussion entre le sorcier et un méchant blanc qui cherche à nuire à Tintin et avait heureusement, par hasard, à portée de la main une caméra et un phonographe qui permettent d'enregistrer les propos du sorcier, où le sorcier, comme on peut le voir à l'écran, dit bon, confie qu'il ne croit absolument pas en la magie, que la magie est une fausseté qui sert à, comme il est dit explicitement, dominer la populace ici. Et donc, on a dans cet épisode la modernité identifiée dans la personne de Tintin et représentée par le phonographe qu'on voit ici et la caméra. Il y a une autre page où on projette les images qui vont révéler le mensonge. Et la raison européenne ici triomphe de l'obscurantisme africain, avec le résultat que Tintin est proclamé chef des Baba Orom. Donc ça, c'est la première idée, que la magie est une fausseté qui est un outil de pouvoir. Deuxième idée, c'est l'appropriation du surnaturel par la modernité. Donc dans un second épisode, Tintin, chef de la tribu des Baba Orom, se retrouve en guerre contre une autre tribu et Tintin va affronter seul cette autre tribu et se tient à côté d'un arbre et l'autre tribu envoie flèche sur flèche contre Tintin et miraculeusement, toutes les flèches sont dirigées vers un arbre derrière lequel Tintin a caché un très puissant électro-aimant qu'il avait encore, heureux hasard, à sa disposition au milieu de la jungle africaine. Donc, Tintin seul est invincible aux flèches. C'est une magie invisible et incompréhensible pour les Africains qui fait que Tintin devient sorcier, il s'approprie le faux et, résultat, devient aussi chef de la seconde tribu des Matuvu. Enfin, troisième idée, c'est la rationalité qui domine le mysticisme. Et ici, Hergé, qui avait fait ses devoirs, réfère à la société secrète des Aniota, qui était une vraie société secrète qui existait en Afrique de l'Ouest à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Les Aniota, donc des hommes léopards, il y avait d'autres variantes en Afrique dans les légendes des hommes singes, des hommes alligators, qui représentaient un phénomène social complexe, terrorisant la population par des meurtres qu'on attribuait à des hommes léopards, qui est, pour les fins de Tintin, réduit à une manière de combattre le colonialisme aux mains de sorciers comme celui que l'on voit à l'écran. Ici, et je saute un peu les détails, mais Tintin déjoue le complot qui devait mener à sa perte et le sorcier se déclare son esclave. Et là, on voit ici l'idée que le faux mystique ne peut pas vaincre la pensée rationnelle, civilisée, occidentale. Et donc, dans Tintin, on voit, dans le travail d'Hergé, une frontière très, très nette tracée entre modernité et mysticisme, entre fait et non-fait, entre vérité et mensonge, et finalement, entre civilisation et barbarisme. Donc, une idée assez complète, mais tracée à traits extrêmement nets de la relation entre mysticisme et modernité, fantaisie et vérité. On arrive maintenant à la Sierra Leone et à l'interaction du mysticisme et de la modernité dans la jurisprudence. Donc, tout d'abord, un mot pour ceux qui peut-être ne connaissent pas le tribunal sur la Sierra Leone. Donc, le contexte, c'est une guerre civile qui a fait rage pendant plusieurs années dans ce pays avec une avec une implication du Libéria entre autres et de notre ami Charles Taylor en réaction à ce conflit armé processus de restauration de la paix, les Nations Unies et le gouvernement de la Sierra Leone en 2000 ont créé une institution hybride, le tribunal spécial pour la Sierra Leone, institution à laquelle participent à la fois des juges de la Sierra Leone et des juges nommés par le secrétaire général des Nations Unies, appelés à appliquer à la fois le droit international et le droit de la Sierra Leone, mais dans les faits, le tribunal de la Sierra Leone n'applique pas le droit de la Sierra Leone, mais applique exclusivement le droit pénal international. Donc, c'est un tribunal hybride qui ne produit pas de droit hybride, comme la plupart des tribunaux hybrides, produit plutôt du droit international. L'affaire qui nous intéresse met en cause un accusé, Aliyu Kondewa, un de multiples accusés dans l'affaire CDF, donc l'affaire ayant trait aux Civil Defense Forces, un des groupes paramilitaires ayant commis diverses exactions dans le cadre du conflit en Sierra Leone. Kondewa, très brièvement, accusé de 8 chefs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres violations graves du droit international humanitaire. Une des particularités ici, c'est que Kondewa est accusé non pas pour avoir commis ces exactions lui-même, mais sur la base de la responsabilité des supérieurs. Ce n'est pas en soi très particulier ou très différent, mais ce qui différencie Kondewa des autres cas d'application de la doctrine de la responsabilité des commandants ou des supérieurs, c'est que Kondewa était le sorcier attitré ou le sorcier en chef des Civil Defense Force et à ce titre était responsable de l'initiation des Kamajors, c'est le nom d'un des combattants des Civil Defense Forces. Kamajor signifie chasseur en Mende, mais ça référait à une espèce de société secrète responsable, entre autres, de la protection des villages dans cette société-là. Et donc, Kondewa présidait à l'initiation des Kamajor et aussi aux cérémonies de bulletproofing. Et j'ai un peu difficulté à trouver un équivalent français de bulletproofing, le parballage, enfin. Je vous laisse trouver votre traduction. Cette affaire qui, en appuyant sur le rôle de magicien de Kondewa, la doctrine de la responsabilité des supérieurs, va mener le TSSL à discuter du rôle du mysticisme dans l'Afrique. Et au contraire de Tintin, qui est un monologue d'Hergé, le tribunal spécial pour la Sierra Leone est un dialogue, puisqu'il y a plusieurs juges dans cette affaire, et en particulier au niveau de la chambre d'appel, 3 juges qui sont impliqués. Et je vais vous dire quelques mots maintenant, d'une part sur le raisonnement de la majorité, et d'autre part sur celui du dissident, le juge King, qui était le seul juge sierra-léonais sur le banc qui a entendu l'appel. Alors tout d'abord, pour le raisonnement de la majorité, je vous ai mis là un extrait du jugement de première instance que reprend la majorité, qui offre, qui décrit un peu ce que faisait Kondewa. On le décrit comme grand prêtre, et on explique le raisonnement juridique, où on dit « The Kamajors believed in mystical powers of the initiators, especially Kondewa, and that the process of the initiation and immunization would make them bulletproof. » Et un peu plus loin, « By virtue of these powers, Kondewa had command over the Kamajors in the country. » Et enfin, « No Kamajor would go to war without Kondewa's blessing. » Et donc, ça, c'est essentiellement la base du raisonnement de la majorité. C'est-à-dire qu'on réduit la magie qui, par définition, est fausse, mais enfin, on ne se prononce pas sur la qualité de la magie par le droit. Au départ, tout le monde s'entend que le test juridique, c'est le contrôle effectif, de jure ou de facto. Donc, il n'y a pas de désaccord pour aucun des juges, même la défense est d'accord avec cette approche. Mais pour la majorité, la croyance est un fait. La croyance est un fait vide. C'est-à-dire que tout ce qui est important, c'est qu'on ait cru à quelque chose qui ait donné un pouvoir à Kondewa. Quelle était cette chose? Peu importe. C'est une chose vide de contenu. On ne s'y intéresse tout simplement pas. Et on peut dire ici que le droit produit sa propre vérité. C'est-à-dire que le droit produit sa vérité qui est celle de la croyance, et la modernité ici va consommer le mysticisme pour n'en retenir que ce qui sert à ses fins. Et on voit ici que le droit est un discours qui est en relation avec lui-même, un dialogue interne, où on ne se soucie que de convaincre un auditoire à l'intérieur du cercle de la pensée juridique. Et donc l'interlocuteur imaginé, c'est le juriste qui travaille en droit pénal international. On contraste à ça la dissidence du juge King, où là, le fait dépasse le droit, où le narratif nécessairement est hybride. La justice ne peut pas fonctionner en circuit fermé. D'autres vont récupérer le discours du droit, récupérer la dimension factuelle du raisonnement du TSSL. Et pour le juge King, hors le droit, le fait, c'est la magie. C'est-à-dire que d'autres vont conclure du fait que le tribunal ait reconnu Kondewa comme responsable du fait de son rôle de sorcier, que le tribunal pour la Sierra Leone a reconnu que Kondewa avait effectivement des pouvoirs de sorcier. Sinon, il n'y a pas de logique dans l'analyse de la majorité. Donc, pour le juge King, le tribunal fait beaucoup plus que décider de l'affaire. Il contribue à l'élaboration d'un discours sur la majorité. Et c'est quand même, le langage est très intéressant. Le dissident dit « For the first time in the history of international criminal law », on dit que « a juju man or witch doctor is a commander by virtue of his reputed superstitious, mystical, supernatural and such like fictional and fantasy powers ». Donc, on jette l'opprobre sur le raisonnement de la majorité, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il implique. Donc, ici, magie et afro-modernité se conjuguent dans cette dissidence où on a le TSSL comme site d'élaboration d'un discours sur la modernité et la magie comme symbole de l'anti-modernité. Et encore une fois, la citation est assez intéressante où le juge King dit essentiellement « Aucune personne civilisée n'accepterait un tel raisonnement ». Et donc, on évoque l'idée de civilisation aussi. On conclut donc que Tintin, comme le TSSL, identifie la magie comme un site de la construction de la modernité, de la civilisation et de la vérité, en fait, mais aussi que la vérité du droit est somme toute assez monochromatique, c'est-à-dire que il est difficile de la voir comme multidimensionnelle. Elle a tendance à réduire la vérité à sa vérité et à évacuer toute autre forme de vérité. Et en conclusion, on peut peut-être dire que la bande dessinée, elle, est peut-être plus apte à embrasser différentes formes de réalité, adopter des discours autres pour projeter des réalités et des vérités qui sont diverses. Merci beaucoup.